Tu as pêché où? Baobab, acajou.
Dur de la feuille.
Baobab, acajou. Tu as pêché où?
L'émission qui susurre à vos oreilles.
Huron, cyprès, pin, élan de palissandre. Mais l'aise tremble, tremble être noyé.
Bienvenue dans un nouvel épisode de notre très attendue et riche série Nécologie aux petits oignons. La série qui emprunte les mirettes d'humains passionnés de ces multiples êtres peuplant notre planète. À chaque épisode, nous tendons la feuille et l'oreille pour que l'humain, dans toute sa diversité, nous parle de sa vision du vivant. Cette semaine, nous accueillons sur les ondes une éclaireuse de nouvelles voies d'accès à l'or bleu. Peux-tu te présenter pour nos auditrices et auditeurs?
Bonjour, je m'appelle Lucie, j'habite du côté de Compiègne, dans les Hauts-de-France. J'ai fait des études d'ingénieur en France et à l'étranger. Ingénieur généraliste, et j'ai étudié dans ce qu'on appelle les grandes écoles, dans lesquelles on entre à la suite d'une prépa scientifique, qui forme des ingénieurs à la compréhension des sujets techniques d'aujourd'hui. Et donc, c'est très généraliste, ça prend surtout de la mécanique, un petit peu d'informatique. C'est à la fois très intéressant d'avoir un niveau scientifique très haut, mais en fait, il y a beaucoup de personnes qui rentrent dedans parce que c'est la voie d'élite, en fait, et qui prennent pas le temps de se demander qu'est-ce qu'ils veulent faire avant de faire des études. Donc, pour moi, les études, ça devrait accompagner un projet. Et sauf qu'ils rentrent là-dedans, ils savent pas ce qu'ils veulent faire, et ils ressortent là-dedans, ils ont la tête bourrée de plein d'idées et de plein de notions scientifiques dans tous les sens, et ils savent toujours pas ce qu'ils veulent faire. Et après, j'ai commencé à travailler dans le domaine de l'industrie, et très vite, ça n'a pas fonctionné. J'ai bifurqué totalement, je suis partie vers quelque chose qui me parlait beaucoup plus. Et j'ai commencé à travailler dans les milieux humanitaires et dans les milieux associatifs autour de la question de l'eau, notamment de l'accès à l'eau et de l'hygiène. Et aujourd'hui, je me suis installée en France, notamment dans les Hauts-de-France, où il y a énormément de questionnements autour de cet accès à l'eau. J'ai une grande passion pour les puzzles et puis pour l'escalade, qui est grimpe dans différents milieux. Une de mes activités fréquentes en ce moment, c'est le chant. Je chante beaucoup, notamment avec mon compagnon qui joue de la guitare, et on essaye d'accompagner les événements populaires et d'apporter des événements qui parfois sont un petit peu durs sur les sujets qu'ils abordent. Et on essaye d'apporter toujours de la joie et de l'entrain et des belles émotions avec notre guitare et notre chant.
C'est la maîtresse d'école qui l'a dit au pharmacien. Clémence est devenue folle, paraît qu'elle ne fait plus rien. Mais selon l'apothicaire, dans l'histoire, le plus fort n'est pas qu'elle ne veuille rien faire, mais n'en ait aucun remords.
Dis-nous, qu'est-ce que le vivant signifie pour toi? Saurais-tu le décrire en trois mots? Un goût, une odeur, une couleur, une texture, un son?
Le vivant, pour moi, c'est un manque. En fait, je le vis comme un manque parce que j'en ai pas eu assez dans ma vie. Et si je devais associer un son, je pense que c'est celui du bruit du vent dans le noisetier chez moi. J'ai toujours vécu dans des grandes villes depuis que je suis toute petite. Et là, depuis très peu de temps, j'habite enfin loin des grandes villes. Et ce noisetier, c'est un petit peu un symbole pour moi parce que c'est la première fois que je vois, que je regarde l'évolution d'un être vivant non humain, d'un arbre, au fil des jours, au fil des mois. Et que c'est le même arbre que je vois grandir, que je vois s'épanouir au fil des saisons. Et c'est la première fois pour moi et ça m'émeut beaucoup à chaque fois que j'y repense. Et une odeur, ce serait l'odeur des sous-bois. J'adore me balader en forêt, ça me rappelle énormément les balades chez ma grand-mère, où on allait se balader en forêt, où il pleuvait, où il faisait chaud, où il faisait froid, on s'en fichait, de toute façon on allait marcher, nous faire du bien. Et encore aujourd'hui, je sais que quand ça va pas, quand j'ai mal partout, quand je suis fatiguée ou quoi, je vais me balader dans la forêt. La texture, je ne saurais pas identifier une texture particulière, mais je sais que j'aime beaucoup toucher tout, mais en l'occurrence aussi la nature. Et j'ai l'impression de mieux reconnaître les choses une fois que je les ai touchées. La vue, ça ne me suffit pas. Donc, j'aime bien passer mes doigts sur les feuilles ou alors caresser un tronc, histoire de mieux le connaître. Et parfois, on est surpris. Parfois, quand on touche une feuille, on ne s'attendait pas à cette texture. Sur les sons, ça me rappelle une rencontre que j'avais faite avec quelqu'un en covoiturage. J'avais rencontré ces personnes qui étaient absolument fascinées par la nature, mais avec une vision un petit peu technologique. Ils étaient en train de me parler de la musique des plantes. Et c'était amusant, notre échange. Eux me parlaient d'appareils, de technologies avec lesquelles on peut se balader dans la nature et qui nous retranscrivent dans le domaine de l'audible pour les humains les vibrations et les sons et les fréquences des arbres et de la nature autour. J'y croyais pas du tout. Et à la fois, j'étais trop contente de discuter avec eux parce que c'est pas grave en fait, même si j'y crois pas, même si c'est pas vrai. Pour eux c'était vrai et pour eux ça avait une réalité. Moi je trouve qu'il n'y a pas besoin d'avoir des appareils technologiques inventés par les humains pour ressentir des choses avec la nature. Mais eux c'était comme ça qu'ils le ressentaient et je trouvais qu'on pouvait discuter. Pour la couleur j'ai envie de dire le bleu. Parce que c'est l'eau qui est la source de tout. C'est l'eau qui est dans les nuages et qui va venir nourrir le sol, les arbres, toute la nature. C'est l'eau qu'on va boire, c'est l'eau de la sève. Et en termes de goût, j'ai goûté une baie que je ne connaissais pas, mais qu'on s'était quand même assuré qu'elle n'était pas nocive. Et elle était astringente au possible, alors qu'elle me donnait vachement envie, elle était belle. J'avais l'impression que j'allais me régaler. Et au final, c'était très peu agréable comme sensation dans la bouche. Mais j'aime bien ces moments où on n'est pas en harmonie totale avec la nature, on ne va pas courir dans des forêts d'or et de lumière. Et parce que la nature, elle n'est pas faite que pour nous. Donc il n'y a pas de raison pour que tout soit mangeable, pour que tout soit accessible, pour que tout soit confortable pour nous. Et c'est normal, et c'est la nature.
Celle qui chante en moi, la belle. Comment retranscris-tu cette vision du vivant dans tes projets ?
J'essaie de toujours me rappeler que nous, on fait partie d'un tout. Aujourd'hui, je travaille sur des questions de désimperméabilisation des villes. J'essaie de faire en sorte qu'une goutte d'eau de pluie qui tombe dans une ville, elle soit infiltrée le plus proche possible de son point de chute. Et pour ça, on va accompagner les villes et on va leur suggérer des idées, des solutions. Et on a des solutions qui sont potentiellement du béton infiltrant ou du bitume pour eux. Et on a aussi des solutions qui sont beaucoup plus naturelles. Et parfois, on est confronté à des questionnements, par exemple, sur la gestion de l'eau de pluie. Ok, d'accord, mais donc, quand il va pleuvoir tant d'eau de pluie, est-ce qu'on va être capable de contenir toutes les inondations ? Et ce que j'adore dans mon travail, c'est qu'on essaye d'amener ces personnes-là avec qui on discute à une compréhension que, non, on ne peut pas vous promettre, on n'est pas une boîte d'assurance, on ne fait pas des solutions purement technocratiques et on ne va pas vous promettre que vous n'aurez jamais d'inondation parce qu'en fait, un risque d'inondation, c'est un risque naturel et c'est un risque avec lequel il faut apprendre à vivre en une certaine partie, du moins. On peut mettre en place des solutions qui vont mitiger ce risque, qui vont faire qu'il va être moins violent, qui vont faire que potentiellement il y a certaines inondations qui ne vont pas avoir lieu. Mais j'aime beaucoup le fait qu'on essaye d'accompagner à vivre avec cette nature. À un moment, on ne peut pas se déconnecter totalement de la nature. Et notamment, il y a des choses assez folles qu'on voit parfois. On voit des personnes qui habitent rue du Marais et qui se plaignent que leur cave soit inondée. Et sauf que, on se dit, bah oui, mais en fait, les anciens, ils avaient appelée cette rue rue du Marais, c'est bien qu'il y avait des zones humides ici, et en fait, la nature, elle va toujours reprendre ses droits.
Sauf les cul-de-jatte, ça va de soi. Pas besoin d'être gêné.
Quand je parle de la nature va reprendre ses droits, ça me fait penser à un projet qui est juste à côté de chez nous, sur lequel je me bats aussi, le projet du canal Seine-Nord-Europe. C'est un projet de canal, ils veulent construire un nouveau canal pour faire passer plus de fret, plus de transport de marchandises. Et pour ça, ils sont prêts à détruire des 107 km de terre, à passer au milieu des champs, des forêts, des zones humides. Ils ont commencé les travaux il n'y a pas très longtemps, et notamment à un endroit où ils prétendent remodeler le cours de la rivière Oise. Donc on les a vus avec leurs tractopelles, on les a vus avec leurs pales planches, des grands outils pour essayer de remodeler une rivière pour pouvoir faire passer leur canal, leur nouveau canal, parce qu'il y en a un qui existe déjà à côté. Et on voyait, dès qu'il pleuvait, il a plu énormément pendant ce printemps, et dès qu'il pleuvait, la rivière, elle leur disait non. Alors on disait, moi je suis toujours là, je bouge pas. Dans mes projets, j'essaie de toujours de ramener mes amis humains au fait que on n'est qu'une partie de cette nature. Il faut qu'on retrouve notre place.
En été, dans les chemins creux, s'enlacer les amoureux, les rossignols des...
D'après toi, qu'est-ce que l'humain peut apporter à l'ensemble du vivant ?
Avec les branches de sureau, les enfants faisaient des flûtes.
Je pense qu'on s'est posé cette question pendant longtemps, et qu'il y a encore beaucoup de personnes qui essayent de trouver des choses que l'humain peut apporter au vivant, comme si le vivant avait besoin de nous. On dit toujours faites attention à la planète, comme si la planète avait besoin de nous. Cette question, on pourrait se la poser après une grande déconstruction de notre façon d'interagir avec le vivant. Et qu'aujourd'hui, si on cherchait des réponses vraiment de qu'est-ce qu'on apporte au vivant, on irait juste vers plus de technologie et vers plus de tentatives d'impacter la nature. Pour moi, on ne laisse pas assez de place au vivant. Et du coup, se demander qu'est-ce qu'on lui apporte, difficile. On peut se demander qu'est-ce qu'apporte une espèce animale à la nature, mais même ça, ça fait longtemps qu'on n'apporte plus tous les bienfaits qu'une espèce animale autre que humaine apporte à la nature. Ce qui me choque énormément dans les travaux des humains qui essayent d'apporter de la nature, ou qui essayent d'aider la nature, ou qui essayent de faire quelque chose dans le sens de la nature, c'est que souvent j'ai l'impression qu'ils essayent de reproduire la nature. Et en fait, la nature, c'est tellement vaste, c'est tellement d'organismes qui travaillent ensemble, que si tu essayes de le faire toi dans une salle de bactéries, dans une salle blanche, jamais tu arrives à recréer tout ça. Il faudrait qu'on arrête d'essayer d'apporter des trucs à la nature, et qu'on essaye plutôt de faire en sorte que la nature puisse continuer à nous donner, et qu'on arrête de lui prendre. Mettons, là j'étais en train de parler de la gestion de l'eau de pluie, c'est quand même quelque chose de fascinant. C'est-à-dire qu'à la base, ça a un sens, hein. À la base, toutes les eaux sales et les eaux de pluie, les eaux usées, étaient déversées dans la rue. Ça a apporté des maladies, on a créé pour les gérer et pour que nous, on n'ait plus de maladies. Mais donc ça déjà, ça vient de nous humains qui nous sommes regroupés dans des grosses villes dans lesquelles on a imperméabiliser les sols. Et ensuite, de ces tuyaux-là, on s'est dit, on va tout mettre à l'égout. Donc aujourd'hui, on a des canalisations qui servent à récupérer de l'eau qui tombe du ciel, de l'eau de pluie, à l'amener loin de la ville, et ensuite à la déverser dans une rivière, voire même à surcharger un système de traitement des eaux usées. Donc on va mélanger les eaux de pluie avec les eaux usées, donc ce qui sort de nos maisons, de nos toilettes. Et quand il va pleuvoir, et toute la station va déborder, et donc on va déverser des eaux usées dans la rivière. Alors que aujourd'hui, on essaye de porter ce message, de dire, mais en fait, cette eau de pluie qui serait tombée par terre, serait rentré dans le sol, plutôt que d'avoir toutes vos solutions technologiques de tuyaux. Et bien, à partir du moment où le sol est en capacité de l'ingérer, cette goutte d'eau, et bien, elle ne va pas apporter de maladie, elle va être filtrée par le sol et elle va aller recharger les nappes phréatiques. Parce que le nombre d'installations technologiques qu'il faudrait pour recopier la nature, c'est impossible. On n'arriverait jamais à avoir tous les bienfaits. Parce qu'en plus, à côté, ça apporte de la biodiversité, il y a des plantes, ça apporte de la fraîcheur. Si on combine tout ce qu'on a essayé de faire pour recopier la nature, par rapport à un arbre, ça me donne le vertige.
On va passer à la question d'actualité. Si vous voulez en savoir plus sur celle-ci, tendez la feuille au prochain épisode de la chronique qui paraîtra semaine prochaine sur les ondes de notre radio PFM 99.9. Publiée en mai dernier, une étude vient démontrer que les plantes pourraient être réceptives au bourdonnement des abeilles, à tel point que leur production de nectar augmenterait même en fonction des pollinisateurs qui les approchent. En effet, à l'approche de pollinisateurs en entendant leur bourdonnement, les plantes adapteraient leur production de nectar en l'augmentant. Les insectes opportunistes, non essentiels à la reproduction de la plante, quant à eux, verraient au contraire le nectar diminuer. C'est le mufflier qui a été utilisé comme modèle pour étudier ce comportement. Des enregistrements de bourdonnement de l'abeille solitaire ont été diffusés auprès de l'espèce pour analyser sa réaction. Les scientifiques ont ainsi découvert que le volume de sucre et de nectar de la plante augmentait à l'écoute de ces sons. L'expression génétique permettant le transport du sucre et la production de nectar s'en est également vue modifiée. Bien que les preuves sur les mécanismes soient encore limitées, cette étude montre également que les plantes peuvent détecter et réagir à leur environnement, malgré l'absence de cerveau tel que l'on connaît. Par exemple, en situation de déficit hydrique, les plantes peuvent également produire activement des sons par un processus appelé cavitation, explique Francesca Barbero, la chercheuse présentant cette étude. Le son est émis lorsque des bulles d'air interrompent le système conducteur de l'eau et créent une tension dans les tissus du xylème. L'étude est un nouveau pas vers la compréhension de la communication des plantes vis-à-vis de leur environnement et fait également écho au déclin des pollinisateurs. Plus d'informations avec l'épisode de Feuilles de chou numéro 25 sur le phénomène d'autopollinisation. Dommages collatéraux, d'utilisation de pesticides, ou encore victimes de la disparition de leur habitat, soit par excès d'artificialisation des terres et autres détériorations d'habitat, soit suite à des événements climatiques extrêmes, sécheresse, inondations, températures élevées la nuit, les pollinisateurs diminuent en nombre d'individus par espèce, voire même en nombre d'espèces tout court. Selon l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature, 37 à 40% des abeilles sont menacées d'extinction. À la lumière de ta vision du vivant, que penses-tu de tout cela ?
Je trouve ça fascinant et terrifiant. Par contre, pas du tout étonnant. On n'est toujours pas capable d'expliquer comment fonctionnent vraiment les plantes. On n'est même pas capable d'expliquer comment on fonctionne nous, parce que là, on parlait de cerveau. Notre cerveau, nous, on ne sait toujours pas exactement comment il fonctionne. On essaye de le comprendre petit à petit, mais nous-mêmes, on se comprend pas. Et pourtant, on prétend être capable de gérer la nature comme une entreprise et comme des ressources. Ça me fait penser à le canal Seine Nord Europe. Une des premières choses qui m'a fait me dire que ce projet était géré n'importe comment et que ça n'avait aucun sens, c'était quand ils étaient très très heureux d'afficher qu'ils étaient en train de distribuer des nichoirs à chauves-souris. Ces petites boîtes en bois produites localement, super, hein. Ils estimaient que ça, c'était une mesure de compensation pour la destruction de l'habitat des chauves-souris. Des petites boîtes en bois plantées dans les jardins des habitants du coin. C'est un manque de respect face à la nature qui me fait peur. Après, faut pas s'étonner, voilà, qu'il y ait toute une frange de la nature qui disparaisse, quoi. On a l'impression que notre impact est minime, qu'on peut faire un truc et puis le rattraper de l'autre côté. Je comprends pas comment on peut dire ça face à quelque chose qu'on comprend aussi peu. Et comment l'humain peut avoir une telle prétention. Je trouve qu'il faut qu'on gagne en humilité face à la nature. Il y a des choses qu'on comprendra pas, qu'on comprendra jamais. Il y a des choses qu'on comprenait et qu'on a oubliées. Et aujourd'hui, on comprend des nouvelles choses. Donc, c'est toujours fascinant, mais pourquoi est-ce qu'on cherche à comprendre autant? Et est-ce qu'on utilise déjà suffisamment les connaissances qu'on a aujourd'hui?
On va passer à l'agenda librairie. Quel rendez-vous ou référence souhaiterais-tu nous communiquer?
Comme des robots, ils y ont laissé leur cerveau et même en toute honnêteté ont perdu leur humanité.
Ma lecture actuelle, et qui va me prendre beaucoup de temps parce que c'est en 5 tomes de 500 pages chacun, une encyclopédie de la vie à la campagne globalement. C'est plein d'informations et en fait j'ai l'impression que c'est un concentré de récits des anciens. Ça a été écrit par des agronomes, donc c'est vraiment autour de tout ce milieu-là. J'ai découvert récemment ce livre qui a fait parler de lui, de la maison rustique du 19e siècle, où il y a les anciens de 1830 qui nous racontent leur compréhension du monde, de l'agriculture et de la nature. Déjà dans une optique d'exploitation, pour l'agriculture en l'occurrence. Mais ils avaient déjà compris plein de trucs que nous on a déjà oubliés. Sachant que c'était il y a 200 ans.
Français racistes, prenant les frontières cicatrices, tous devenus des étrangers, tous devenus indésirés, tous ces crétins.
Je vous ai parlé du canal Seine-Nord-Europe. Il y a énormément de personnes qui s'interrogent autour de ce canal. C'est un projet qui arrive dans les Hauts-de-France de manière pas démocratique du tout. Du coup, il y a plusieurs rendez-vous à venir. Il y a notamment du 22 au 24 août, il y a une descente à vélo. On part du nord du tracé de Aubin-Chelaubac et on descend jusqu'à Compiègne. C'est exactement le tracé du potentiel futur canal Seine-Nord-Europe. Ce sera une balade en vélo familial avec des experts, avec des personnes qui vivent sur place, qui parlent des problèmes que le canal leur apporte. Et on va réfléchir ensemble, on va vivre ensemble ce territoire. Et ensuite, du 10 au 12 octobre, il y a un très très grand rassemblement qui va faire venir des personnes de toute la France pour essayer de visibiliser ce projet et pour apporter des questions de réaction et d'opposition à l'empire logistique et à tout ce que ça induit de destruction dans nos milieux et dans notre terre et dans notre chair.
Même si arrive le pire, la résistance respire.
L'humain est comme tous les autres animaux, peut faire du bien. Et qu'il faut qu'il fasse du bien, il veut être accepté par la nature.
Tu y as pêché où, baobab, acajou? Voici que cet épisode aux côtés d'une auditrice émerveillée du monde vivant prend fin. La semaine prochaine, nous tendons la feuille à notre nouvelle fraîchement cueillie.
Cendre, mais l'aise tremble être noyée.